On continue sur Red Cross avec on accueille les AES qui vont pouvoir nous expliquer leur formation et en quoi consiste leur métier. Bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, dire votre nom, prénom et votre niveau de formation. Donc nous avons une formatrice et une étudiante.
Marie-Evelyne.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis AES.
Ton parcours.
Mon parcours avant de commencer la
avant
formation.
Avant d'entrer en formation. Ouais.
Je suis auxiliaire de vie à la base, mais j'ai travaillé aussi en tant que surveillante de nuit dans différentes structures. Et après, dès mon retour de La Réunion, je me suis inscrite pour passer le concours, pour entrer en formation ici avec la Croix-Rouge.
Et le concours, il se passe comment ?
Ben en fait, comme moi, j'ai déjà un diplôme dans le milieu. Et du coup, j'ai été dispensée de l'épreuve écrite. Donc, j'ai passé que l'épreuve orale.
D'accord.
Que veut dire AES ?
Accompagnant éducatif et social.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton métier ? Qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous pouvez travailler ?
Mais en fait, on peut travailler dans différentes structures. On peut travailler aussi à domicile. On peut travailler dans les écoles spécialisées, dans les foyers d'accueil, foyers de vie, accueil de jour.
Ouais. Et au niveau du concours, qu'est-ce qu'est demandé Barbara, qui est formatrice chez les AES ?
Alors, au niveau du concours...
Oui. Mets bien ton micro près
oui,
de toi.
Alors je pense que mon micro, il fonctionne là.
Oui, il fonctionne très bien.
Donc au niveau du concours, donc faut savoir que ce diplôme a été réformé là en septembre. Donc les conditions pour rentrer en formation ont un petit peu changé. Donc il y a plusieurs possibilités, sachant qu'on a des places financées par la région Centre-Val de Loire. Donc
un concours écrit, une épreuve
écrite. Il y a un dossier ouais. à compléter. Ce dossier étudié en commission et voilà, il faut apporter quelques pièces, sa motivation pour pouvoir rentrer en formation. Et à partir de là, le dossier est étudié en commission et puis, selon l'avis de la commission, après on est reçu en entretien avec un jury pour une épreuve orale d'admission.
D'accord.
Certains diplômes permettent de rentrer de droit en formation.
D'accord. Comme quoi, comme diplôme ?
Alors des diplômes qui sont inscrits dans les textes réglementaires et qui sont en lien déjà avec le métier d'aide à la personne.
D'accord.
Et puis une personne qui aurait aussi un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation également rentrerait de droit aussi en formation avec bien sûr un entretien de positionnement juste en début de parcours.
D'accord. Et toi, comment tu décrirais en tant que formatrice le métier d'accompagnant éducatif et social ?
Alors, c'est un métier, je dirais, au plus près des personnes, un métier de proximité. C'est un métier où, effectivement, le professionnel va pouvoir évoluer au quotidien avec les personnes qui ont un besoin d'accompagnement dans les gestes essentiels de la vie quotidienne, parce que la maladie, le handicap, ou parfois la vieillesse, crée... une limitation hein, pour pouvoir faire seul ces activités-là. Donc le professionnel va pouvoir être un peu le prolongement de la personne, alors différentes façons, hein, soit en faisant à sa place ou en faisant avec, ou bien en l'aidant à faire par lui-même. Voilà.
D'accord.
Donc les personnes qui sont accompagnées par un professionnel AES peuvent aller de 0 à 99 ans ou
Alors, peut-être pas zéro, mais en tout cas, oui, de l'enfant à la personne âgée. Voilà, effectivement.
C'est vaste.
C'est très vaste.
Ouais. Et est-ce que c'est les professionnels qui interviennent dans les écoles auprès des enfants qui bénéficient d'un plan d'accompagnement particulier ? Ce qu'on appelle les
AESH pour l'éducation nationale.
Ouais.
Alors, on peut retrouver... En fait, l'AES peut intervenir sur trois contextes d'intervention. Le domicile... des personnes, ou en structure collective, qui est également un lieu de vie pour la personne, mais un lieu de vie de substitution. ou effectivement en milieu scolaire, où là, il va pouvoir accompagner un enfant qui aurait des troubles de l'apprentissage. En tout cas, il y a voilà, quelque chose, un handicap ou peut-être un trouble particulier qui va venir limiter les apprentissages ou en tout cas freiner les apprentissages. Oui.
Qu'est-ce qui te plaît dans ta formation ?
Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette formation. Bon, déjà, d'être étudiante à la Croix-Rouge, ça me plaît beaucoup. Non, c'est pas parce que ma formatrice est là que je dis ça, mais...
Elle écoute pas, en fait.
Non, mais c'est vrai, on est très bien encadrés. Et c'est ça qui me plaît ici, parce qu'on est très bien suivis. On a des petits groupes. Des fois, le grand groupe est découpé en petits groupes qu'on appelle des gaps. Et ça se passe très, très bien. Il y a plusieurs formateurs, formatrices, qui gèrent chaque petit groupe. Par exemple, quand on revient d'un stage, donc on a notre formatrice de GAP. Et donc, ça permet, le fait qu'on est en petit groupe, ça permet d'échanger, de partager nos expériences vécues sur le terrain. Et après, quand on se retrouve en grand groupe, on le repartage et c'est très enrichissant. On apprend plein de choses.
Tu débriefes ton expérience et tu apprends de l'expérience des autres.
Oui.
Ouais. D'accord.
Oui, oui, c'est toujours bon d'apprendre d'autres choses.
Et toi, tu fais ton stage où ? Enfin, il y a combien de stages déjà ?
J'ai fait mon premier. Il y a 3 stages.
D'accord.
J'ai déjà fait mon premier stage. C'était à domicile et ça s'est très bien passé. Et là, actuellement, je fais mon deuxième stage, ma deuxième période.
À domicile toujours ?
Non, parce que en fait, justement, on ne peut pas faire 2 stages même dans le même
le même contexte.
Contexte.
D'accord.
Donc, comme j'ai fait mon premier stage à domicile, là, je fais dans un accueil de jour. Et je ne sais pas si je peux dire le nom. Je ne sais pas.
Si.
Je suis au Relais Cajou et ça se passe très, très bien. On accueille des personnes qui ont des troubles cognitifs.
D'accord.
Et du coup, on les accueille en journée. On passe une journée avec ces personnes-là et on partage pas mal de moments.
Et vous faites quoi avec eux pendant la journée ?
Ben déjà, le matin, quand ces personnes arrivent, on les accueille et on se met autour d'une table. On prend un petit café avec ces personnes. Et puis après, on peut démarrer sur une activité ou un moment d'échange. Après, ça peut être une sortie, une balade dans la ville, aux alentours. Après, ou sinon, aller chercher le pain, le journal, faire le marché. Enfin, on fait pas mal de choses. Et puis après, il y a le temps de repas. On mange avec eux. Eux, plutôt, ils mangent avec nous. Et... Après, l'après-midi, des fois, il y a des personnes qui ont besoin d'un petit temps de repos. Donc, on a des fauteuils confort où on installe ces personnes. Et après, on fait des activités. On chante. On chante beaucoup. Mmh. Ces personnes aiment beaucoup le chant. Et il y a des intervenants qui viennent aussi 2 fois par semaine. Par exemple, il y a une personne qui propose de la gym douce, donc le mardi et le jeudi matin. Ça se passe très, très bien aussi.
Et donc, c'est des activités qui vont permettre de peut-être rompre leur isolement chez les personnes sinon qui ne sortent pas de chez eux, c'est ça ?
Oui, c'est sûr tout ça. Et le fait aussi que... ces personnes rencontrent d'autres personnes, ça crée, on va dire pour le lien social, ça permet d'échanger. Ils sont contents aussi d'être là.
De partager.
Oui.
Pour en revenir à ta formation, elle se passe sur 1 an, c'est ça ?
Oui.
Et est-ce que tu peux nous dire quel type de cours tu suis, ce que tu y apprends ?
Alors, on a pas mal de cours, on apprend beaucoup de choses aussi. On a plusieurs modules, en fait. On a 5 domaines de compétences. C'est des DF. On travaille dessus à chaque fois qu'on se regroupe en formation.
Oui, effectivement, Marie-Evelyne, on a des blocs de compétences. Il y en a 5 dans la formation. À travers ces différents blocs de compétences, on va pouvoir aborder certaines pathologies, comment on peut intervenir par rapport à une personne qui a des troubles du spectre autistique. On va prendre connaissance aussi de divers dispositifs dans le cadre législatif. On va également pouvoir voir toute la démarche d'observation qui va être importante pour pouvoir ensuite intervenir au plus près des personnes par rapport à leur situation, la notion du projet personnalisé, tout l'aspect de la prévention d'isolement que décrivait également Marie-Evelyne, mettre en place un projet d'animation. Voilà, il y a pas mal de choses.
À la fois des connaissances théoriques et puis une façon d'intervenir, une méthode pour intervenir auprès des personnes fragiles.
Oui, et puis il y a des TP aussi, des TP très concrets, les gestes et postures, l'hygiène santé, l'entretien du cadre de vie, cours concernant la cuisine. C'est assez.
D'ailleurs, ça sent bon parfois dans les couloirs de.
Aussi en ergothérapie.
Ouais, d'accord. Ok, donc vous profitez de la pluridisciplinarité de l'Institut, en fait.
Oui, okay. Oui. Marie-Evelyne, où est-ce que tu te vois, toi, après ton diplôme?
Où est-ce que je me vois? Vous voulez dire...
Si tu as une baguette magique, où est-ce que tu travailles?
Moi, j'ai pas vraiment une préférence. Moi, je m'adapte à toute situation, à toute personne. Donc, ça peut aller des enfants vers personnes âgées, personnes en situation de handicap. Moi, je n'ai pas de problème particulier. Je suis polyvalente.
Très bien. Et qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait avoir comme... compétences pour exercer ce métier-là? Qu'est-ce qui est le plus important pour exercer ce métier-là?
Déjà, il faut être très bienveillante. Il faut avoir une bonne posture professionnelle. Bien souvent, moi, c'est un petit peu mon problème, l'affect. On dit qu'il ne faut pas trop rentrer dans l'affect, mais on est des humains, on n'est pas des robots, on travaille avec des personnes. Ouais. Il faut aussi être très attentif et faire vraiment attention niveau sécurité, tout ça.
Est-ce que c'est
surtout
un métier...
être à l'écoute aussi.
Ouais. Est-ce que c'est un métier qui peut être fatigant?
Oui, bien sûr. Il y a des moments où on peut craquer, on peut... Oui.
Alors comment vous faites dans ces cas-là?
Moi, je dis qu'il faut toujours relativiser et il faut prendre sur soi-même. Faut pas... je parle dans le cadre quand je travaille, même si j'ai des soucis, mes soucis restent derrière la porte. Je ne les montre pas. J'ai essayé en tout cas d'être là à 100% pour la personne.
Pour la personne, ouais. Oui. Et puis, vous travaillez dans des équipes?
Oui, effectivement, l'équipe va être importante pour pouvoir aussi échanger, réfléchir sur une situation. Et effectivement, l'AES va pouvoir aussi
C'est un travail d'équipe, c'est sûr.
S'inscrire dans une équipe pluridisciplinaire. Oui.
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à la formation ou au métier?
Alors moi, je voudrais dire juste que c'est un métier qui est ouvert autant aux garçons qu'aux filles, puisque dans la promotion, on compte aussi des hommes. Et parfois, on peut avoir une représentation sur ces métiers qui seraient que des métiers féminins, mais non, c'est ouvert vraiment à...
On a besoin aussi des hommes dans ce métier.
Aux garçons, chacun a sa place, et les deux garçons présents dans la promotion sont très contents.
Ah oui.
D'être rentrés en formation et ils ont des choses à apporter.
Trois garçons.
Ils ont des choses à apporter dans le cadre du care aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé juste aux femmes. C'est important de le redire.
Oui.
Eh bien, merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Je vous souhaite une belle journée.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.